sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et je salue d'ailleurs son président, directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Déjà notre 20e émission.
Oui, ça passe vite. Hein?
Qui l'eût cru?
Je ne sais pas combien d'autres on fera, mais effectivement, on est déjà rendu à 20.
Ah, mais c'est bon. Écoute, toujours intéressant de se retrouver à chaque semaine autour de ce studio et autour de ces micros. Et avant de saluer notre invité en studio, parce qu'on a encore un invité cette semaine, une invitée en studio pour notre sujet du jour, je tiens à rappeler que pour transmettre vos questions, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». On peut le faire aussi par texto, par téléphone, au 819-519-9050, 819-519-9050. On vous invite à poser vos questions, parce qu'on aura un sujet intéressant que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Mais avant de présenter notre invité, Donald, on va revenir sur les sujets d'actualité. Pas plus tard que ce matin à Trois-Rivières, il y avait quand même des grosses annonces portuaires. Puis ça me fait penser aux annonces portuaires qu'on a eues ici à Bécancour. Modernisation de terminaux 16 et 17, plus de 300 millions d'investissements. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le portuaire, dans notre région. Hein.
Oui, vraiment, une annonce ce matin que c'était attendu. Dans le milieu, on savait que ça s'en venait, ce projet-là. Mais un autre signal intéressant, surtout avec ce qu'on vit de ce temps-ci, que la dépendance, ou en tout cas le fait qu'on a beaucoup on transige beaucoup avec les États-Unis, puis qu'on voudrait regarder d'autres options, ça prend tout son sens. Et puis, si on combine Trois-Rivières et Bécancour, ça fait de l'ordre de 650 millions d'investissements dans le domaine portuaire en Mauricie, centre du Québec. Et donc, je pense que ça va être vraiment un avantage indéniable pour le futur.
Donc, on est privilégié d'avoir ces annonces-là qui sont financées par les divers paliers de gouvernement. D'autres dossiers dont on voulait parler ce midi, revenir au niveau de l'actualité. Celui-là, c'est plus au niveau d'un arrêt potentiel, peut-être un troisième arrêt potentiel d'un chantier de construction, soit celui de l'usine de cathode d'EcoPro BM à Bécancour. Inquiétant cette troisième pause qui s'en vient de ce côté-là?
Assurément, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais c'est pas une bonne nouvelle pour eux. T'sais. Donc, mettre un chantier sur pause, c'est jamais ta première décision, là, on s'entend. Et puis, le communiqué de presse, ou en tout cas ce qu'ils ont envoyé des communications à certains journalistes, les propos ont été repris. Donc, un peu conjoncture économique, projet de tarification. On savait qu'ils travaillaient fort pour tenter d'avoir preneur pour leur production. Assurément, la dynamique avec les États-Unis complexifie leur discussion. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est quand même, ils prévoient à l'avance. Hein. Ils parlent d'une pause quelque part fin mai. Donc, ils travaillent encore à tenter de construire, finir l'enveloppe du bâtiment et tout ça. Et par la suite, ils parlent peut-être d'une pause de quelques mois. Ça fait que donc, on essaiera peut-être d'avoir plus d'infos. Puis, ils n'ont pas été très... Ils se sont pas exposés beaucoup. Ça fait qu'on va travailler voir si on pourrait pas avoir une discussion avec des joueurs d'EcoPro. Moi, de relier l'information, c'est correct, mais ce serait le fun aussi d'avoir un échange avec eux éventuellement. Fait que donc, je te promets rien, mais on pourrait peut-être avoir une discussion avec eux à un moment donné.
Il faut dire que les deux premières pauses étaient aussi stratégiques, là, dans le sens que, il y a parfois des pauses qui sont bénéfiques aussi. Là,
Oui, c'est pour ça que moi, je travaille avec eux tous les semaines, je leur parle. Comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ce serait mieux que tout coule bien puis que leur contrat soit déjà signé. De l'autre côté, je trouve qu'ils font une gestion, une gestion sécuritaire de leur projet en se donnant le temps de se repositionner.
Autre nouvelle, le projet de loi 87 qui a été officiellement adopté la semaine dernière. Qu'est-ce que ça représente pour la Société du parc?
Bien, assurément, c'est la possibilité d'agrandir via le parc Laprade. Le parc Laprade qui est déjà zoné industriel lourd, donc on a amplement de place pour faire du développement économique avec tout ça. Et puis, il n'est pas question d'aller chercher des terres agricoles de plus pour faire du développement industriel. On va en avoir amplement. Fait que donc, ça, c'est quand même important pour nous. Il y a d'autres choses qui viennent avec ce projet de loi-là, comme modification au conseil d'administration. La ville aura un représentant au conseil d'administration, des trucs administratifs qui ont changé aussi. Mais pour nous, c'est surtout le signal que on ne sera plus que mandataire de la Prade, on va devenir propriétaire dans les prochains mois.
Donc, c'est officiel maintenant.
Ouais, ouais.
L'actualité était généreuse parce qu'aussi, il y a une autre nouvelle, le Gestion 3LB qui a annoncé sa volonté de mettre en place un projet innovant qui offrirait une solution durable à l'industrie de la filière batterie. On peut peut-être en parler brièvement.
Oui, bien, il y a déjà des rencontres avec les citoyens cette semaine. Moi, ce que je trouve le plus intéressant de ce dossier-là, c'est qu'on retravaille sur on réhabilite un peu un site qui avait un passé moins intéressant, qui avait déjà eu des résidus qui avaient été entreposés là. Fait donc, Gestion 3LB vient reprendre ce site-là, vient comme le retravailler, le rendre compatible, accueillir des matériaux qui vont être issus principalement des entreprises de Bécancour, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'assure que ce soit réversible. Donc, pour faire de l'enfouissement, et puis dire, OK, ça va rester là ad vitam aeternam. Non, c'est possible et c'est souhaité de valoriser. Parce que de toute façon, si on parle des résidus du parc, il n'y aura pas de mètres carrés de plus qui vont être vendus pour faire de l'enfouissement. Donc, c'est sûr que les usines qui vont en générer beaucoup vont absolument devoir trouver des façons de valoriser ces matériaux-là.
Puis d'ailleurs, on devrait recevoir la visite de Gestion 3LB à notre émission en mars.
Oui, dans les prochaines semaines.
Donc, ça va être intéressant de les entendre. Puis aussi, bon, tu l'as évoqué rapidement, là, l'équipe de Gestion 3LB organise une rencontre citoyenne à l'église multifonctionnelle de Bécancour le 25 février, donc demain de 14h à 17h et de 18h à 21h. Donc, une belle occasion de s'informer, mais on aura l'occasion de le faire à l'émission aussi. Et je pense que ça fait une belle transition, le dossier de gestion 3LB, vers notre sujet du jour, soit l'environnement. Oui. Et pour nous parler d'environnement, qui d'autre qu'une spécialiste de l'environnement avec nous, je te laisse nous la présenter.
Oui, bien, on parle d'environnement aujourd'hui. On avait fait une émission, je pense, en octobre ou novembre, mais la SPIB était là, j'en avais parlé de certaines initiatives, mais là, on souhaitait avoir quelqu'un qui travaille pour des organisations, qui a comme une mission environnementale. Et puis, je présente sans plus tarder Andréanne Blais. Donc, bonjour Andréanne.
Bonjour à tous.
Donc, Andréanne, présidente et fondatrice de Nature Avenir, et puis aussi directrice générale du Conseil régional d'environnement du Centre du Québec. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ben, ça fait plaisir.
Donc, Andréanne, on va se tutoyer, comme on s'est entendu au début de l'émission. Et on va aussi parler du CREC pour peut-être raccourcir un petit peu le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Mais peut-être la première question qui nous vient à l'esprit quand on parle du CREC ou du Conseil régional, c'est quoi la mission, c'est quoi les objectifs du CREC?
Oui, le Conseil régional de l'environnement, c'est un organisme à but non lucratif réparti partout au Québec. Okay. Donc, un conseil régional par région administrative. Et notre mission principale, c'est la protection et l'amélioration de l'environnement dans une optique de développement durable.
Et est-ce que la mission du CREC est donc identique aux autres ou il y a une particularité par rapport au Centre du Québec?
Chaque conseil régional est différent par rapport à sa mission qui reste notamment l'environnement. Mm-hmm. Mais nous, on a quand même une particularité face au développement durable. On est une région qui est très active au niveau du développement et du développement durable. Donc, on s'en fait quand même vraiment une fierté par rapport à ça.
Donc, quels sont les types de projets pour lesquels vous êtes interpellés? On peut penser à des projets milieux naturels, etc.
Oui, on a divers projets. On a quatre grandes sphères d'intervention. On a les changements climatiques, les milieux naturels, les matières résiduelles et le développement durable. Donc, on œuvre dans l'ensemble de ces quatre sphères-là. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'intervenir auprès des instances municipales et des ICI, des institutions, commerces et des entreprises.
Quels sont les projets, bon, parce qu'on est dans l'émission Le Parc en 30 minutes avec le parc industriel, quels sont les projets pour lesquels la Société du parc industriel vous a interpellé, puis quelle dynamique s'installe entre vos deux organisations?
Oui, c'est une belle dynamique qui s'est installée avec les années, une dynamique de collaboration, une dynamique de transparence aussi par rapport à l'ensemble des projets qui s'y déroulent au parc. Donc, on peut, par exemple, être interpellé pour siéger sur différents comités. Que ce soit des comités directement pour des entreprises particulières. On peut prendre le cas de Nemaska Lithium, de la consultation de Vallée. On parlait aussi du site d'enfouissement là, par rapport à l'annonce que vous avez annoncée tantôt. Donc, on siège aussi sur le comité. Et on peut être aussi interpellé pour des mandats différents. On est interpellé, entre autres, pour faire la caractérisation des matières résiduelles du centre administratif de la société. On a été aussi interpellé pour faire de la caractérisation de milieux naturels directement sur le terrain. Donc, on peut être interpellé à différents volets.
Donc, Donald, quand tu es arrivé en poste, le côté environnement par rapport à la Société du Parc, c'est quelque chose qui est une des priorités, évidemment, de votre plan stratégique.
Ben, c'est sûr qu'il y a les organisations puis il y a les gens. Mm-hmm. Donc, Karine et Hugo travaillent, c'est des biologistes qui travaillent à l'ESPIB, puis il y avait déjà des liens avec les équipes d'Andréane et tout ça. Puis, tu sais, ce qu'on souhaite, c'est bien faire les choses. T'sais, on est conscient que le développement industriel, c'est du développement industriel. Il y a un impact sur l'environnement quand on construit un projet, ne serait-ce que de prendre des terres et puis de le construire. Et puis, on essaie que ce soit le plus mince possible, ces impacts-là. Mais l'idée de travailler avec des équipes comme Andréane, c'est justement par la suite quand on veut minimiser ou trouver des solutions ou réfléchir à différentes choses, c'est de ne pas le faire que chez nous. T'sais, mm-hmm. Nous, on peut avoir un point de vue, mais il y a des mandats qui ont été confiés aux équipes. Par exemple, Montesson en fait partie. C'est donc une réflexion de dire, OK, si on avait des aires à conserver sur le territoire de la SPIB, ben, quels seraient-ils? Et puis, on ne veut pas faire ça seul parce qu'on pourrait se tromper. Puis, il y a aussi un aspect concertation dans tout ce genre de réflexion-là. Là.
Donc, le Conseil régional de l'environnement, bon, tu disais tantôt, Andréane, comité de liaison Nemaska-Lithium, bon, ça, vous vous impliquez dedans, le comité, vous avez un siège, comment concrètement ça se traduit, je prends l'exemple de Nemaska-Lithium, mais donc vos implications, c'est présence dans des comités, vous avez un rôle conseil ou…
Oui, exactement. Donc, par exemple, pour le comité de Nemaska-Lithium, c'est mon collègue Éric Perrault qui siège sur le comité. À même le comité, on ne peut pas dévoiler tout ce qui se discute, mais c'est vraiment, il nous demande notre opinion en tant qu'expert en environnement. Mais on traite de différents dossiers, que ce soit des aspects sociaux, des politiques que Nemaska vont adopter. Éric, qui siège sur le comité, est là vraiment en titre d'expert par rapport au changement climatique, par rapport à l'environnement.
Donc, quand on parle de la filière batterie qui débarque chez nous depuis une couple d'années, ça s'est ajouté dans votre portrait d'intervention là, au niveau du Conseil régional.
Oui, effectivement. Et pour être vraiment impliqué, connaître l'évolution du dossier, on est aussi sur le comité de développement durable, la vallée de la transition énergétique. D'accord. Qui est une autre entité à l'externe de la société du parc, mais ça nous permet de vraiment suivre l'innovation et on est aussi un fier étendard de toute la campagne Roulons électriques qui vise à sensibiliser les citoyens à l'utilisation de l'électricité, que ce soit du vélo, que ce soit de l'automobile, des camions lourds et autres usages électriques pour vraiment aller vers une réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que pour nous, la stratégie batterie venait soutenir cette valorisation-là de l'usage de l'électricité.
Et ça, c'est une particularité dans notre région comparativement à d'autres régions. Vraiment, la filière batterie qui se développe passablement chez nous, donc ça tombe dans votre cours d'une manière particulière aussi, d'une manière intéressante à la fois. Là.
Oui, puis tant au niveau des GES, la diminution des GES, que l'usage du territoire. Hein, quand une stratégie s'en vient, on regarde aussi l'impact sur le territoire, donc l'impact sur les milieux naturels, l'impact sur les gens, sur tout ce qui est la qualité de vie, l'agrandissement des périmètres d'urbanisation. Donc, c'est tous des éléments sur lesquels on va s'interroger, mais toujours avec un œil curieux puis avec un œil de conciliation des usages.
Est-ce que cette arrivée de la filière batterie, est-ce que ça a nécessité chez vous même de l'embauche pour répondre à ça ou vous aviez déjà les équipes nécessaires pour répondre aux demandes, aux besoins?
Oui, bien heureusement, on reçoit de notre financement un statutaire du ministère de l'Environnement à chaque année, donc une enveloppe qui nous permet de faire de la concertation sur notre territoire. Donc, c'est à même cette enveloppe-là qu'on peut dédier des équipes là, qui vont venir soutenir la concertation par rapport à la stratégie batterie.
Fort intéressant. Alors, Donald, l'environnement, on a quelqu'un qui connaît ça avec nous vraiment. Là.
Ben oui, puis tu sais, l'idée avec la filière batterie, c'est diminution de GES. Donc, on est tous pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même bien réaliser nos projets. Tu sais, les projets qui sont en cours, ils ont un impact, il faut bien les exécuter. Fait que donc, c'est sûr que l'objectif ultime, il est très noble, mais il faut s'y rendre de la bonne façon aussi. Et puis, c'est pour ça qu'on a des partenaires et puis qu'on travaille avec la communauté pour réussir à y arriver du mieux possible.
Donc, on va continuer cette belle discussion sur l'environnement avec notre invité Andréane Blais du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et Donald Olivier, PDG de la Société du Parc. Et on vous invite à poser vos questions. Allez sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Cliquez sur « Poser vos questions » ou d'aller par téléphone, par texto, 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, écrivez-nous, appelez-nous, posez vos questions et on vous revient après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec notre invité spécial de cette semaine, Andréanne Blais du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et Donald Olivier est toujours avec nous de la Société du Parc industriel. On voulait justement y aller du côté de la SPIB, Donald et Andréanne, pour voir un petit peu, bon, du côté du CREC, c'est quoi votre point de vue concernant le plan directeur biophilique de la SPIB?
Oui, c'est un plan qui nous a été présenté il y a déjà quelques années où on vient vraiment augmenter la qualité de vie par rapport aux citoyens qui habitent proche et aussi la transition des citoyens, la transition des gens qui vivent dans le secteur. Donc, d'emmener la société du parc dans vraiment une dynamique de qualité de vie dans sa communauté. Plus particulièrement, mais c'est un plan aussi qui prend en compte les milieux naturels puis des objectifs de contribution, notamment au niveau des aires protégées, les fameux 30-30 du gouvernement. Donc, pour le CRE, c'est vraiment un plan qui vient concrétiser la volonté du parc de prendre en considération la qualité dans laquelle les industries se bâtissent.
Donc, dès le départ, dès la conception de ce plan-là, vous étiez impliqué ou c'est qui a initié quoi?
De la façon que ça s'est fait, première chose, il fallait prévoir du budget pour ça, parce que ça se fait pas gratuitement, ce genre d'initiative-là. Ça prend quand même des sommes. Fait que oui, on construit plein de choses, des infrastructures, des routes, des rails, mais on a prévu un budget quand même important pour des projets biophiliques. Et puis, c'est à partir de là de l'intention, mais par la suite, une fois qu'on se dit, OK, on veut biophilie, c'est le besoin de l'humain d'être en contact avec la nature. Mm-hmm. Une fois qu'on se donne ces principes-là, qu'on a du budget, mais faut quand même faire bon usage de ces sommes-là puis avoir le plus d'impact possible pour les citoyens avec le budget qu'on a. Puis je le lance, le chiffre, là, c'est de l'ordre d'une quinzaine de millions. Donc, ça inclut la piste cyclable, fait que ça va quand même vite, ces projets-là, mais c'est quand même pas négligeable, environ 15 millions des projets biophiliques. Fait que oui, il y a des partenaires qui sont mis à contribution pour trouver la meilleure façon d'investir ces sommes-là, puis qu'il y ait le plus d'impact pour les citoyens aussi.
Une question vient de nous arriver, imaginez, en live, c'est ça qui est la beauté de cette émission. Alors, une question qui vient de Jean-René Beaudoin de Gentilly. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser le bout de piste cyclable à partir de la rivière en allant vers Alphonse Déhay? Je ne sais pas si c'est...
Ce qu'on souhaite, c'est avoir une piste cyclable plus en milieu naturel. Donc, Alphonse Déhay, c'est ça passe dans le parc. Je répondrais à la question de dire oui, on va vouloir avoir des liens actifs dans le parc, mais quelqu'un qui va vouloir traverser d'est en ouest, on veut lui offrir un trajet plus en milieu naturel du côté sud, et puis vraiment un mélange de traverser les champs et la forêt. Et puis le tracé devrait être présenté probablement juin. Oh. Juin, on devrait connaître le tracé pour des débuts de travaux 2026 et probablement une mise en service 2027.
Donc, on remercie Jean-René Beaudoin pour cette question. Jean-René Beaudoin de Gentilly. Merci, Donald, pour la réponse aussi. Alors, tout ça, tout ce qui se passe dans le parc au niveau biophilique, intégration du parc dans le milieu de vie, connexion du parc avec les citoyens. Donc, on tient compte de l'environnement dans lequel est le parc aussi. Bon, c'est un parc qui est... Bon, il y a le fleuve tout près, corridor écologique, donc c'est tout un ensemble, c'est tout un écosystème.
Oui, effectivement, puis comme on vient de le mentionner, la piste cyclable souhaite passer dans des milieux naturels parce que dans le parc, il y a effectivement des beaux milieux naturels. C'est un défi quand même considérable de voir quel milieu on se doit de conserver pour cette biodiversité-là dans un cadre de conciliation avec le développement industriel. Puis la SPIB est arrivée quand même à un beau constat avec l'aide de Nature Avenir à ce niveau-là.
C'est ça, Nature Avenir a eu un mandat. T'sais, nous, quand on voulait avoir la réflexion, c'est pas juste de prendre une carte chez nous puis de faire une ligne autour. Vraiment, il y a plusieurs choses qu'on voulait considérer. Évidemment, la qualité du lieu, de l'endroit, la biodiversité, la faune et la flore, tout ça. Mais aussi, il faut que le milieu soit d'accord avec ça. Donc, si on avait eu l'idée de faire un air de conservation, mais que tout le monde s'y oppose en bout de ligne, ça serait pas nécessairement gagnant. Et évidemment, Montesson, on s'en doutait intuitivement, on s'en doutait que Montesson aurait quand même beaucoup de points et puis que c'est probablement là qu'on ferait des choses intéressantes, mais c'est l'étude l'a confirmé, puis aussi l'aspect concertation nous amène à être rendu dans d'autres phases de réflexion pour ce projet-là.
– Puis quand on parle des espèces présentes sur le territoire de la SPIB, est-ce qu'on peut en identifier ou comment on peut les protéger?
Oui, certainement. Sur le territoire, il y a beaucoup d'espèces, dont les grandes, la grande catégorie des oiseaux champêtres, donc le goglu, la sturnelle, dû à la présence de grandes friches sur le territoire. Mais on a aussi des oiseaux sur le bord du fleuve, dont le petit blongio dans les grands marais du fleuve, qui est un échassier. C'est un petit oiseau avec des grandes pattes. Qui va nicher, qui va s'abriter dans les marais à quenouilles, dans les grandes marais, là, les grands marais qui se situent le long du fleuve.
Donc, parce que quand on pense à un parc industriel, bon, ben, c'est un paquet d'usines, un paquet de bâtisses, puis il n'y a pas de nature là-dedans, puis etc. On est loin de ça, là, à Bécancour.
On est loin de ça dans le sens qu'on souhaite, on sait qu'on n'est pas loin, on est en milieu naturel, tout près de la nature, puis la commande du gouvernement, c'est le seul parc industriel qui appartient au gouvernement du Québec. Et puis, on veut qu'ils servent de modèle. Et puis, à notre connaissance, on est les premiers à se lancer avec un plan de cette nature-là, un plan directeur biophilique. Ça a été présenté au mois de mai dernier, puis ça a été très bien accueilli. C'était présenté dans le cadre d'une conférence québécoise. Et puis, on souhaite bien faire les choses. Puis, c'est sûr qu'il y a plein d'autres initiatives. T'sais, là, on parle de pistes cyclables, on parle de Montesson, mais il y a aussi des analyses qui sont faites pour dire, est-ce qu'il y a-tu des endroits dans le parc où est-ce qu'on pourrait améliorer des milieux humides qui sont déjà existants? Et puis, je pense que c'est des initiatives aussi qu'on a travaillé avec vous autres, Andréane, là-dessus.
Oui, effectivement, il y a eu des analyses avec le conseil régional sur certains cours d'eau, certains milieux humides d'intérêt qu'il y a sur le parc. Puis éventuellement, on espère aussi, il y a des corridors écologiques qui traversent le parc. Puis on aimerait ça éventuellement, avec l'aide de la communauté autochtone de la région, d'aller poser des caméras qui viendraient suivre le mouvement des animaux dans ces corridors-là. Donc, il y a vraiment un beau terrain de jeu, là, même dans les prochaines années, là, pour étudier les milieux naturels du parc.
Oui, parce que, mettons, si on imagine le parc développé, bon, les industriels, les gens qui passent ont remarqué qu'ils mettent des clôtures autour de leur usine, c'est bien normal, mais il faut avoir en tête aussi comment le gibier va circuler au travers de tout ça. Et puis, c'est des initiatives qu'on discute, mais aussi avec les ébéniquis, évidemment, mais pour trouver comment on peut faire. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact de ce qu'on fait, mais comment on peut s'assurer de préserver, parce que prenons Montesson, donc il faut que Montesson soit connecté avec le reste du territoire au sud et ça pose certaines réflexions. Puis on a des pistes de solutions, mais il faut tenter de trouver les meilleures possibles.
Parce que la problématique de la destruction des milieux humides, ça tombe dans votre cours, dans votre créneau pas mal, ça,
Adrienne? Oui, c'est une réalité partout au Québec. Différentes sphères qui viennent mettre des pressions sur le développement des milieux humides. Notre objectif, c'est d'aller prioriser les milieux humides pour trouver ceux qui ont vraiment une importance réelle pour venir les conserver de différentes façons. Il y a plein d'outils qui existent, notamment comme l'île Montesson. On va y aller vers une optique de collaboration avec Nature Avenir, qui est un organisme légal de conservation, mais il y a plein d'autres outils qui existent au niveau de la conservation qui pourraient être utilisés. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression sur les milieux humides. Il faut tenter de conserver ceux qui ont vraiment une très grande priorité.
Oui, puis dans le PL, dans le projet de loi 87 de la semaine dernière qui est passé, il y a un amendement qui a été ajouté. Et puis, la SPIB, on multipliait ces aires-là sans pression, mais là, on va avoir la pression dans la loi. On va être obligé d'aller chercher 15 % d'aires protégées naturelles. Donc, on va être obligé de protéger 15 % du territoire de la SPIB, puis que ce soit des milieux naturels comme le secteur Montesson ou autre. Donc, ça va être officiel dans la loi qui a été adoptée la semaine prochaine, mais qui va être sanctionnée dans les prochaines semaines.
Donc, par rapport à l'environnement, à l'usage dans notre émission, on voit très bien que le CREC a un rôle assez important à jouer dans votre réflexion du côté de la SPIB.
Bien, nous, c'est de mettre ces acteurs-là autour de la table. Puis, si tu te souviens, Andréane, je pense que c'est le 22 mai que vous étiez venu à une rencontre au bureau. Pas juste vous, mais l'organisme de bassin versant. Et puis, il y avait 5-6 organisations en environnement. Puis, nous, tu sais, puis Andréane parlait qu'on était transparent, mais je pense effectivement qu'on l'est. Puis nous, je pense qu'on a eu l'audace de toutes vous réunir aussi à une même table. Où est-ce qu'on vous a présenté, où on allait? Puis il y a des entreprises aussi qui ont présenté leur vision ou leur orientation. Fait que pour nous, on trouve que c'est la façon d'avancer. C'est comme ça qu'on va aller plus loin. Tu sais, de se cacher, de prétendre qu'il n'y aurait pas trop d'enjeux, tenter de les minimiser. En bout de ligne, c'est le citoyen qui est perdant. T'sais, nous, on regarde, on le sait. Les premières usines, c'est des anciennes terres agricoles qui ont poussé en friche. Oui, c'est vrai que c'est des milieux humides. Tout le monde s'entend que ce n'était pas les plus importants, mais il y a un impact quand même. Puis à partir de là, il faut quand même trouver la meilleure façon d'avancer avec tout ça. Là.
Donc, avec tout ce qui se développe dans le parc de Bécancour 2025, 2026, 2027, on peut s'attendre à voir le CREC très actif dans ses différents dossiers, dans ses différents comités là, sur le territoire.
Oui, effectivement. Puis peut-être mentionner, justement, ça m'a inspiré le fait que le CRE est aussi un organisme de concertation, de collaboration. Puis on travaille énormément avec tous les autres acteurs en environnement, que ce soit le Gros Bec, la ZIP des Deux-Rives, le Bureau environnement et terre de Wolinac. Donc, c'est important de collaborer avec l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, je pense que l'ensemble de ces acteurs-là vont être présents là, dans les prochaines années.
Donc, collaboration, concertation, préservation de l'environnement, maximisation des choses pour le bénéfice de tous. Je pense que ça résume bien notre discussion de ce midi.
Oui, et puis assurément, ces discussions-là, ça se terminera jamais dans un sens. Il y aura toujours, une fois que le parc est développé, après ça, il faut continuer à l'opérer, tout ça. Fait que ça va toujours être des discussions en continu, mais assurément, les prochaines années, c'est quand même intéressant parce que on arrive, oui, il y a un impact, mais on a quand même des budgets qui nous permettent de faire des projets intéressants pour le milieu. Tu travailles dans ce domaine-là, Andréane, des fois, c'est pas tant des millions qu'on a besoin, mais ça prend quand même toujours de l'argent pour pousser des initiatives, et c'est ce qu'on a la chance d'avoir prévu dans le projet. Fait que donc, on devrait avoir un résultat intéressant pour les citoyens.
Déjà, la fin de l'émission, ça passe vite. Hein? Vraiment, on parle d'environnement, c'est non seulement intéressant, mais stimulant aussi parce qu'on sait que c'est positif pour tout le monde. Donc, merci encore pour ta présence, Andréane Blais, du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Merci pour ta présence en studio. Merci, Donald, chaque lundi midi, toujours fidèle au poste de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et faites comme Jean-René Beaudoin, écrivez-nous ou allez sur 819-519-9050 pour laisser vos messages par texto, par téléphone, poser vos questions. On se revoit et on se retrouve lundi prochain pour une autre émission, Le Parc en 30 minutes, et on vous réserve le sujet, on ne vous le dit pas, on vous réserve sans surprise la semaine prochaine pour notre 21e émission. Alors, bonne semaine à tous et écrivez-nous.